Il est 13h21 minutes tout de suite, retrouvons après le 13h l'instant politique qui vous est présenté par Bertrand Villeneuve.
Politique.
L'élection, c'est la base de la démocratie. Démocratie vient du grec demokratia, formé de demos qui signifie peuple et kratos qui veut dire pouvoir. On parle donc de pouvoir du peuple, de gouvernement du peuple. Peuple qui momentanément transfère ce pouvoir à ceux qu'il désigne lors de l'élection. Important de le dire pour comprendre que dans cette compétition, aucun candidat n'est jamais certain de rien. D'où la nécessité de débat, d'une campagne, de se faire entendre correctement pour être compris. Bienvenue à tous dans Après le 13h, l'instant politique.
Après le 13h.
Madame, Monsieur, bonjour. Sébastien Cogan n'occupe pas continuellement le devant de la scène politique en Guyane. Cependant, ce n'est pas tout à fait un inconnu. Il a déjà été candidat à une élection en Guyane, c'était aux dernières législatives. Professeur d'histoire-géographie au lycée et au collège Victor Schilcher de Kourou, il est père de 3 enfants et porte les couleurs de Lutte ouvrière et il se présente à Kourou. Alors, pour mieux le connaître, restez avec nous, écoutez d'abord et ensuite participez, ce sera en deuxième partie d'émission.
Après le 13h.
Cogan, bonjour.
Bonjour.
Quel bonjour.
Bertrand Villeneuve, bonjour.
Merci de nous recevoir comme d'habitude.
Avec un plaisir habituel.
Pourvu que ça dure. Monsieur Cogan, qu'est-ce que votre électorat doit savoir de plus sur vous ?
Alors, je suis à la tête d'une liste de travailleurs, de 35 travailleuses et travailleurs, qui allons défendre nos intérêts dans cette élection. Les élections municipales sont un moment politique, c'est un moment où on peut s'exprimer, on peut défendre des idées. Et nous, à Lutte ouvrière et avec l'aide des camarades qui sont sur la liste, on a décidé de se présenter pour défendre nos idées et surtout défendre le fait qu'il faut changer cette société, la société capitaliste.
Vous le savez depuis quand que vous allez être candidat ? Parce que là, on sait, nous, que vous êtes candidat depuis 3 ou 4 jours, mais vous ?
Alors, moi, je le sais depuis que j'ai réussi à constituer ma liste. Parce que, vous savez, les élections municipales, même si ce sont des élections démocratiques, dans le cadre de cette démocratie bourgeoise qu'est la démocratie française, il faut quand même réunir un certain nombre de gens, un certain nombre de papiers, il faut convaincre, il faut discuter. Et moi, je n'ai pas annoncé ma candidature.
Donc, vous rentrez dans le sillon de la bourgeoisie, finalement.
Avant d'être certain, j'ai pas annoncé ma candidature avant d'être certain d'avoir déposé la liste. Donc, et une fois que j'ai réuni mes 35 travailleuses et travailleurs qui ont bien voulu accepter de suivre cette aventure, j'ai déposé ma liste à la préfecture et là, j'ai dit, je suis candidat.
Pourquoi ou comment ou qu'est-ce qui fait que vous avez envie de participer à ce jeu bourgeois puisque vous vous présentez, donc vous êtes en plein dans le système.
Alors oui, je suis en plein dans le système. D'abord, je suis obligé, j'y vis, j'y travaille, comme de nombreuses personnes. On travaille tous dans cette société. Mais justement, on participe à cette élection pour justement dénoncer cette société et proposer justement une alternative aux travailleurs. Et plus il y aura d'électeurs, de travailleurs qui voteront pour ma liste et pour ce programme, eh ben plus on saura combien on est à vouloir changer cette société. Parce que quand même, que ce soit à Kourou, à Cayenne, à Saint-Laurent, dans toute la Guyane, ou même en Hexagone et dans le monde. Vous avez vu l'état du monde dans lequel il est. Vous avez vu dans le mur dans lequel on va et dans lequel cette société nous emmène. Eh ben moi, c'est ce combat-là que je porte. C'est l'envie de vouloir changer cette société. Alors, là, il y a des municipales, c'est l'occasion de le dire aux municipales, mais vous inquiétez pas, puisque vous l'avez dit très bien en introduction, j'étais présent en législative.
Oui, chaque fois qu'il y aura une élection,
et
vous serez présent.
On sera présent à chaque élection.
Mais justement, quand on représente Lutte ouvrière, on participe pour la tribune ou est-ce qu'on a vraiment la détermination qu'il faut pour gagner ?
Alors, si on va à cette élection, bien évidemment qu'on y va pour faire un score. Pourquoi pas être élu au conseil municipal et faisons de la politique fiction. Chiche, soyons élus maire. Mais attention...
Donc vous appelez ça de la politique fiction, donc vous n'y croyez pas.
Non, c'est pas que je n'y crois pas. Je suis réaliste. Notre organisation à l'échelle de la Guyane est petite. À Kourou, c'est la première fois que je me présente. Il faut pas raconter n'importe quoi aux électeurs. Je suis réaliste.
Donc c'est une
tribune. Maintenant, il y a une campagne à mener, donc on va mener cette campagne. Et moi, je ne parle pas à la place des électeurs, les électeurs parleront eux-mêmes dans les urnes. Les travailleurs s'exprimeront dans les urnes et dans le scrutin.
Alors, je vous ai entendu, dès le début de cette émission, votre façon d'annoncer les choses. Vous êtes un parti en but à la société bourgeoise dans laquelle on vit. Et ce discours, je l'entends depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans. Est-ce que vous avez réadapté, rajeuni votre discours pour attirer d'autres types d'électeurs potentiels ?
Alors, moi, je pense pas être très très vieux non plus, et je pense que la société n'ayant pas changé, je vois pas ce que je peux rajeunir dans le discours. La société est toujours aussi injuste, la société est toujours aussi inégalitaire. Là, la société nous menace et de nous mener à la guerre, parce que ça, il faut en parler aussi, parce que s'il y a la guerre demain, tous les moyens de l'État seront mis pour la guerre, et le bourrage de crâne, il sera pour la guerre. Moi, mes enfants, et les enfants de l'ensemble de la Guyane, je n'ai pas envie qu'ils aillent mourir pour des guerres qui ne sont pas les leurs. Et il faut pas croire que c'est en Europe, hein. Regardez Trump au Venezuela, c'est à côté. Regardez le blocus de Cuba, c'est à côté. Qui nous dit que demain, ça sera pas la Guyane, le Suriname, le Brésil? On n'en sait rien. Et ça, ce sont des dangers qui sont réels, qui risquent d'arriver. Et nous, on tient à avertir la population pour que les travailleurs s'organisent et s'y préparent.
Donc, pas de changement dialectique, pas de changement des résultats que vous avez obtenus jusque-là. Est-ce que vous avez un but dans cette élection, par exemple, ne serait-ce qu'atteindre le pourcentage critique qui vous permet d'être remboursé?
Nous, notre objectif, c'est de diffuser le message le plus largement possible, de multiplier les discussions avec les travailleurs le plus possible et les convaincre qu'il faut qu'on s'organise. Après, le résultat, vous savez, on verra. Moi, déjà, je suis extrêmement fier qu'on ait pu monter cette liste, extrêmement fier qu'on soit présent. C'est déjà une première réussite. D'accord ? On est au pied de la fusée. Il y a le drapeau rouge de lutte ouvrière qui est planté sur ces élections. Moi, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc après, le résultat, on verra. Et si on entre au conseil municipal, eh bien, nous serons les yeux et les oreilles des travailleurs et on sera un appui pour les luttes futures à venir. Ça commencera à Kourou, mais vous inquiétez pas, dans le reste de la Guyane aussi, les gens se lèveront et rejoindront lutte ouvrière, vous inquiétez pas.
Mais si vous êtes le seul porte-drapeau de lutte ouvrière, il n'y a pas grand risque qu'il y ait des listes dans chaque commune de Guyane.
On n'en sait rien, les prochaines élections municipales. Là, cette année, il y a eu Kourou, on verra dans 6 ans.
Comment vous avez recruté les 36 autres candidats qui composent la liste? Est-ce que c'est des gens qui ont eu leur carte à lutte ouvrière ou est-ce que vous avez ratissé le plus large possible?
On a été faire campagne auprès de notre milieu, des gens qu'on connaît, des gens qui étaient curieux de savoir pourquoi on se présentait. Quand on leur a expliqué, ils ont dit oui, on en est, nous on est d'accord avec ça, on te soutient, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. On a fait une campagne militante.
Et c'est qui?
Alors, il y a des techniciens, des aides-soignantes, des enseignants, des documentalistes. Ce ne sont que des travailleurs, que des salariés. Il n'y a aucun politicien professionnel chez nous.
Il y a des ouvriers quand même.
Des techniciens, oui, c'est des ouvriers. Hein. Une aide-soignante aujourd'hui, c'est une ouvrière. Vous avez vu le salaire que sont payés les aides-soignantes.
Moi, je parle, est-ce qu'il y a des maçons, est-ce qu'il y a des artisans, est-ce qu'il y a des...
Oui, on a un ouvrier orpailleur sur notre liste. On a plein de gens comme ça, oui.
Allez-y, Kel.
Alors, on a entendu un peu le tableau que vous avez dressé, qui semble assez proche du catastrophisme. Comment est-ce qu'on peut encore motiver les troupes et avoir des valeurs assez solides et enthousiastes quand on entend ce tableau qui est assez macabre quand même?
Parce que la contradiction justement de ce système qui nous emmène à la catastrophe, c'est qu'il produit aussi les moyens de les résoudre. Parce que si d'un côté il y a une misère importante qui s'accumule, de l'autre il y a des milliards et des milliards qui sont accumulés dans les poches de quelques-uns. Et il suffirait de prendre dans les poches de ces gens-là les milliards pour régler les problèmes. Vous avez vu quand même aujourd'hui, vous en avez parlé dans le journal, une simple coupure d'électricité a mis à mal l'ensemble de la distribution de l'eau sur presque tout le littoral en Guyane. Nous sommes la 7e puissance mondiale et on a un réseau de fourniture d'eau qui est celui du tiers monde. Donc à un moment donné, faut se poser les vrais problèmes. Quand l'État a envie de faire quelque chose,
Il met tous les moyens disponibles pour le faire. À Kourou notamment, quand il a fallu construire la base spatiale, il a spolié des gens, il a expulsé des gens, il les a déplacés ailleurs, les fameux expropriés de Kourou. Je suis au passage d'ailleurs à dire bonjour à Juliana Chocho et à soutenir son combat que j'adore et que je salue. Mais il a construit une ville en quelques mois. Il a construit deux ponts en quelques mois. Regardez le pont du Larivot. Combien de millions et combien d'années on peut le faire? Parce que là, l'État s'en fiche, il a déjà tout construit. Eh ben, nous disons que cette société, c'est pas possible. Et nous disons aussi que ceux qui peuvent changer ça, les seuls qui peuvent changer ça, bah, c'est les travailleurs. Parce que c'est eux qui sont au centre de la société. C'est eux qui sont au centre de l'économie. Et si eux, ils s'organisent justement ensemble pour combattre nos exploiteurs et renverser cette société, eh ben, on pourrait régler l'ensemble des problèmes, pas que de la Guyane, mais de l'humanité.
Est-ce qu'il y a une école lutte ouvrière? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un cursus pour arriver et puis pour prospérer à l'intérieur de votre parti?
Je comprends pas du tout cette question. On est militants. Ceux qui ont envie de combattre et de militer, ben ils rejoignent nos rangs. Et après, ça se.
Non, mais s'il y a une formation.
Il faut lire les
discours. Parce que non, mais je vous pose la question parce que là, je vous écoute et j'entends des discours. Je dis de mon enfance. Et il y a très longtemps que j'étais enfant.
Mais oui, mais ça fait très longtemps que la société doit changer. Je suis d'accord avec vous. ça fait bien longtemps que la société doit changer, on est bien d'accord avec ça. Ça date pas d'hier.
Mais il y a pas un le discours doit pas s'adapter encore une fois, non?
Mais s'adapter à quoi?
Ben là, au moment là, on est à l'ère de ChatGPT, on est à l'ère des réseaux sociaux. Est-ce qu'un jeune qui arrive aujourd'hui entend votre discours? C'est ça ma question.
Eh ben oui. Je vais vous donner un exemple très personnel. Mmh. Mon fils de 10 ans. Mmh. Avec qui quand il me voit à la télé et qu'il m'entend, il me dit: "Mais papa, t'as raison." Et il a 10 ans.
Mais c'est votre fils?
Oui, c'est mon fils. Mais ça serait n'importe quelle personne autour. Mes élèves, je pense que s'ils m'entendent aujourd'hui, qu'ils me voient à la télé, et ben peut-être que demain, quand je retournerai en cours, ils me diront: "Monsieur, franchement, ce que vous avez dit, c'est bien. Et il n'y a pas besoin d'avoir de l'IA ou de ChatGPT pour dire ça."
Vous me tenez au courant, comme ça je viendrai voir.
Je vous dirai.
Alors dites-moi, pour poursuivre... Vos adversaires, vous en pensez quoi? Vous les connaissez? Vous savez qui c'est? Vous savez comment les battre?
Alors moi, je me préoccupe pas trop de mes adversaires et parce que moi, c'est pas mon objectif de me comparer aux autres. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, nous, notre objectif, il est de faire prendre conscience aux travailleurs qu'il faut renverser cette société. Et dans le cadre de ces élections, nous, on a un message à dire aux travailleurs, c'est que oui, il faut qu'on fasse de la politique, mais pas qu'on vote pour des promesses qui seront sans doute pas tenues ou des programmes qui seront sans doute difficiles à appliquer parce que l'État réduit de plus en plus les budgets des mairies. Nous, on est pour que les travailleurs, quand ils ont besoin de réclamer quelque chose, eh bien, ils s'organisent, ils manifestent et ils ruent dans les brancards là où ça doit bouger. Je vous donne un exemple qui est très personnel. Il y a 3 ans, quand je suis arrivé à Kourou, un jour, il y a une amie qui m'appelle parce qu'il y avait un problème avec la cantine scolaire. Les enfants mangeaient froid, voire mangeaient des sandwichs au lieu du repas de la cantine parce qu'il y avait un problème avec la cantine. Mmh. Et ce problème était pas connu ou masqué, je ne vais pas dire les mots, par la mairie. Ben, il y a eu une manifestation de 150 personnes devant la mairie et qui a débouché à quoi? À ce qu'on trouve une solution très rapidement alors que le problème durait depuis plusieurs mois ou plusieurs
semaines.
Donc
votre gestion, la gestion municipale que vous préconisez, une somme de mobilisation. Chaque fois, on se mobilise.
C'est pas une somme de mobilisation, c'est qu'il faut que les travailleurs, pour qu'on obtienne des choses, eh ben oui, il faut qu'on se batte.
Oui, il faut avoir des dossiers, il faut avoir quand même des choses.
Ah, des dossiers, des listes de ce qu'il y a à faire à Kourou. Je peux vous dire, il y a une liste, il y a 40 pages ou 50 pages. Je pense qu'on n'a pas le temps de l'émission pour dire l'ensemble des problèmes qui ne vont pas et qui ressortent, qui sont du ressort.
C'est pas tellement de
la mairie
de savoir si vous connaissez les problèmes, mais savoir comment vous envisagez d'apporter des réponses.
Mais les réponses, elles ne seront que collectives et elles ne pourront se faire que parce que la population impose ces changements.
Il est 13h36, comme d'habitude, madame, monsieur. Je vous rappelle déjà pour commencer que nous recevons aujourd'hui Sébastien Cogan, qui est militant de lutte ouvrière et qui, à ce titre, propose une liste, présente une liste au municipal des 15 et 22 mars prochains. Alors, je ne vous ai pas posé la question, vous avez déjà déposé votre liste ?
Oui.
La liste est déjà déposée, donc c'est certain, il sera de la partie. Et dans cette deuxième partie, bien sûr, vous avez le droit d'appeler, d'échanger avec notre invité, discuter avec lui pour comprendre ses points de vue, en tout cas sa façon de faire. Alors justement, pour entrer dans cette deuxième partie, votre campagne, quelle est-elle ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous faites ?
Notre campagne, elle est principalement axée sur... Déjà, demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation, qu'est-ce qu'ils pensent de la société en général, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe en ce moment et de l'impact de la société à Kourou. Et ensuite, de discuter de notre programme, c'est-à-dire de dire, bah voilà, tous nos problèmes, l'ensemble de nos problèmes, ils sont quand même liés au dysfonctionnement de cette société, qui est une société malade, qui est une société malade et qui ne peut pas résoudre nos problèmes. Et nous, on pense qu'il faut justement que les travailleurs se réunissent et s'organisent. Et cette liste, c'est justement un point de réunion, un début d'organisation pour... quelque chose sans doute qui sera plus grand plus tard. D'accord ? Et c'est aussi un moyen de créer justement un parti, une organisation des travailleurs pour justement changer cette société.
Nous partons au téléphone.
Nous accueillons René. René, bonjour.
Oui, bonjour. Et bonjour tout le monde dans les plateaux. Et moi, attends, mais ça me fait à qui côté monsieur Souti ? Moi, il a appelé monsieur. Côté monsieur Né, côté monsieur Lévé. Mais c'est pas présenté ce code après moi. En fait, c'est à moi qui vont mettre en cours. Parce que
comprendre bien,
laissez-moi parler, s'il vous plaît. Comprendre bien,
parce que
moi-même, écoutez, s'il te plaît. Moi, c'est un Guyanais, hein. Donc, est-ce que moi-même, je vais présenter mon corps au Brésil pour me prêter maire et mon parent parle brésilien. Donc, ça, moi, je vais demander, monsieur lui-même, est-ce que monsieur capable de créole? Donc, s'il te plaît, pas traduire pour monsieur, laissez monsieur répondre, parce que moi, je pense que monsieur est tombé sans mot dire.
Et puis,
alors, mon cas par les créoles, pas de problème pour moi. Néanmoins, je tiens à dire que je suis internationaliste. Et certes, je vis en Guyane. Je rappelle quand même que la Guyane est un dernier morceau de colonie de l'impérialisme français. En Guyane,
c'est pas le dernier.
On est bien d'accord. Un des morceaux de l'empire colonial français. Nous sommes un pays multiculturel, multiethnique, où chacun a sa place, chacun joue son rôle et chacun a son importance. Moi, je suis pour l'unité des travailleurs, quels qu'ils soient, qu'on soit haïtien, brésilien, surinamais, français. Amérindiens, chinois, on est des travailleurs. Qu'on ait les papiers ou pas de papiers, on est des travailleurs. Et notre force, elle réside dans l'unité. Et c'est pour ça que je m'exprime pour tout le monde. Et d'ailleurs, je tiens à rajouter que cette liste au municipal, elle est aussi la liste de tous les travailleurs à Kourou qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas les papiers français. Nous sommes pour que les immigrés, à toutes les élections, ils puissent s'exprimer, national et local, parce que les travailleurs, ils doivent pouvoir s'exprimer. Je suis pour l'unité des travailleurs.
René disait aussi, alors apparemment, il attend que vous vous présentiez. Alors vous venez d'où? Voilà.
Que je me présente, de savoir d'où je viens, oui, historiquement.
Oui,
voilà. Alors, pour le dire à René, moi je suis né en banlieue parisienne, dans une banlieue populaire à Saint-Michel-sur-Orge. J'ai travaillé pendant 10 ans en Seine-Saint-Denis en tant qu'enseignant. Ensuite, je suis parti à Mayotte 4 ans, où j'ai travaillé. Et d'ailleurs, je salue mes camarades de Mayotte et mes amis de Mayotte qui vivent des heures très difficiles depuis le passage de Chido. Je rappelle que quand même l'État, la seule chose qu'il a envoyé en premier aux rescapés, c'est les flics, hein, c'est les CRS, pas de l'eau, pas de la nourriture. Donc ça montre aussi le mépris de l'État français vis-à-vis de ces territoires d'outre-mer. Et ensuite, je suis venu en Guyane. J'ai fait 5 ans à Saint-Laurent avant de venir à Kourou, où je suis installé et où je vais rester. Parce que souvent, on pense que les enseignants, souvent métropolitains, viennent pour les primes ou machin. Alors moi, je vous le dis tout de suite, j'ai pas touché la prime quand je suis venu et je viens pas pour la prime. Je suis très bien en Guyane. Je suis amoureux de ce territoire et je compte bien y rester et même voilà, et continuer, voilà. prospérer, faire prospérer Lutte Ouvrière.
Voilà René qui est rassuré, qui va dormir sans doute un peu mieux aujourd'hui. Allons-y pour la suite.
Et nous accueillons Léon. Léon, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que en étant candidat, vous n'êtes pas rentré dans le système? Parce que moi, j'étais hors système, j'étais plus fort que quand je touchais à la politique. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui est en ébullition, il y a une révolution. Vous avez parlé de la grève, vous avez vu que depuis quelque temps, les robots vont nous remplacer. Est-ce que, quelle est votre position par rapport à ça? Et quelle est votre politique qui vous est élue à la mairie par rapport à ça, cette évolution, les réseaux sociaux, les robots? Et puis, on élimine l'humain. Voilà.
Merci, Léon. Réponse, M. Cogan.
Alors, vous savez, les évolutions technologiques, théoriquement, elles sont faites pour avoir un progrès et soulager l'humanité d'un certain nombre de problèmes. Mais dans le cadre du capitalisme, chaque innovation technologique, c'est surtout rechercher la source du profit maximal, quitte à justement mettre des gens au chômage, etc., etc. Nous, on n'est pas contre les évolutions technologiques. À partir du moment où tout le monde, c'est-à-dire l'ensemble de la société, en bénéficie. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une innovation technologique, ben, en réalité, il n'y a pas grand monde, à part quelques privilégiés, qui peuvent en profiter. Je vous prends même un exemple. Aujourd'hui, dans le monde, même en France, il y a des ouvriers de l'automobile qui fabriquent des voitures, ils peuvent même pas se les acheter. Tellement les salaires sont bas. Donc là, on a comme un problème. C'est pas la robotique qui va remplacer l'humanité, je ne pense pas, parce que pour fabriquer des robots, il faudra des êtres humains. Il faut des ingénieurs pour les concevoir, il faut des travailleurs. Mais le problème, c'est que les capitalistes, eux, leur source, c'est faire le profit maximum. Et si il faut foutre des gens sur le carreau parce qu'on décide de fermer une usine là, si il faut emmener des peuples à la guerre pour récupérer des terres rares à un endroit, pour récupérer le pétrole à un autre endroit, ils le feront aussi par le biais de leur gouvernement. Donc, c'est pour ça que cette société, il faut la changer, il faut la renverser. Et une fois qu'on l'aura renversée, bah oui, il faudra mettre toutes les innovations technologiques, tout ce qu'il y a de mieux dans la société, au service de tout le monde. Tout le monde devra avoir un logement décent, avoir des conditions de vie honorables, pouvoir vivre avec son travail, etc., etc. Mais ça passe par renverser la société parce que ceux qui nous dirigent ne veulent absolument pas de ce monde-là.
Nous accueillons Georges et ensuite Guillaume. Georges, bonjour.
Oui, bonjour. Juste une question. Le discours du candidat est axé sur les travailleurs. Qu'en est-il de ceux qui sont privés du travail, en gros les chômeurs, quoi? Merci.
Bah, les chômeurs sont des travailleurs, justement, qui sont mis de côté par cette société. Vous savez, il y a quelque chose qui est absolument pas normal. C'est que d'un côté, il y a des gens qui se tuent au travail. C'est que on continue à maintenir les vieux en repoussant l'âge de la retraite à 65 ans, alors que justement il y a du chômage. Il faudrait faire partir les gens plus tôt. Les gens qui ont des métiers pénibles, il faudrait les faire partir plus tôt. Et on ne le fait pas. Et après, le gouvernement nous dit, ah oui, mais nous, notre priorité, c'est la lutte contre le chômage. Vous me direz, le gouvernement, il a plein de priorités, mais en fait, la seule priorité qui a le droit à des sous dans ce nouveau budget, c'est les militaires. Donc, nous, on pense qu'il faudrait bien évidemment répartir le travail entre tous. Il faut baisser le temps de travail, répartir le travail entre tous, sans baisser les salaires, au contraire. Et ce que je dis là, tout le monde va me dire, oh oui, mais vous vous rendez compte, le fric ça coûte, etc. Mais attendez, la fortune de Bernard Arnault, la fortune de M. Ayotte, qui ici tient une partie de l'économie, la fortune de M. Bezos, la fortune de M. Musk, mais ils sont là, les milliards qu'on va prendre pour financer tout ça. C'est eux qui se nourrissent avec notre travail. Leur richesse, c'est notre travail. Donc c'est à eux qu'il faut s'en prendre. Mais ça, c'est pas une mesure qu'un homme politique va imposer en étant élu. Ce sont les travailleurs, en étant organisés, qui pourront l'imposer à ces capitalistes.
Guillaume, bonjour.
Allô?
Oui, Guillaume, c'est à vous.
Il a pas... Ah oui, oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, oui.
Voilà, je voudrais juste poser une question à ce monsieur. Je n'ai rien contre son côté politique où il veut s'intégrer dans la communauté congolaise. Mais je pense qu'il a un problème de définition. Il n'est pas, à mon avis, un travailleur, il est un fonctionnaire. Lorsqu'on est fonctionnaire, on a la garantie de l'emploi. Lorsqu'on est travailleur, on vit sur le fil du rasoir. Et là, on a des difficultés. Donc, qu'il laisse la place aux travailleurs pour défendre les travailleurs. Merci.
Alors, moi, justement, je ne fais pas de différence entre travailleurs ou fonctionnaires. Et puis, vous savez, la sécurité de l'emploi chez les profs, Samuel Paty, il l'avait. Il y a d'autres professeurs qui l'avaient et qui se sont fait agresser ou poignarder. Ça dépend ce qu'on entend par sécurité de l'emploi. Moi, dans mon travail, il y a une dégradation extrêmement accélérée de nos conditions de travail en tant qu'enseignants. Et je peux vous dire, par exemple, qu'au collège Victor Schœlcher, les mesures du gouvernement de 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, eh ben, on est en train de les ressentir parce que nous, à la rentrée prochaine, on nous supprime 2 postes de prof. Au nom de quoi ? Au nom que les classes ne seraient pas assez remplies. Alors ça, c'est selon la définition du rectorat, c'est-à-dire que si on maintenait les postes et qu'on créait des classes, on aurait des classes à 18. Pour le rectorat, c'est trop faible comme remplissage de classes. Donc, ils suppriment des postes pour qu'on ait des classes à 25. Cette année, j'ai eu 3 classes de 6e à 25, dont une classe avec plus de la moitié de la classe, des élèves qui ne savent ni lire ni écrire. Donc moi, je veux bien que j'ai la sécurité de l'emploi et le confort. Mais enfin, mon travail, il est extrêmement pénible, il est extrêmement frustrant, parce que moi, ces gamins, j'ai envie qu'ils réussissent, mais je n'ai pas le temps et pas les moyens de les aider. Et là, on est en train de nous supprimer des postes. Au nom de quoi ? Au nom de... en fait, c'est, le problème, ce n'est pas les moyens, ça serait la pédagogie qui serait mauvaise. Mais on plaisante. Si on avait des classes à effectifs réduits, on pourrait s'occuper de manière plus individuelle des élèves qui ont des problèmes. Mais ça, c'est des questions de budget. L'État y prend dans l'éducation nationale pour, je le dis encore une fois, donner aux militaires, préparer la guerre. Et moi, je ne fabrique pas de la chair à canon. Je fabrique les futurs ingénieurs d'Ariane 6 ou les futurs techniciens d'Ariane 6, mais absolument pas les soldats qui vont mourir dans les tranchées.
On repart au téléphone.
Josiane, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'équipe. Bonjour les techniciens surtout. Bonjour monsieur le futur candidat.
Bonjour.
J'ai 85 ans, j'ai eu samedi, et j'ai eu l'impression de revenir 50 ans en arrière. Là, vous êtes en train de vouloir faire changer Kourou, qui est en Guyane, mais ne vous faites pas trop d'illusions. Parce que Kourou est européen, on voit bien qu'on va relancer Soyouz, enfin l'établissement. Je voudrais plutôt vous demander de donner l'importance à la jeunesse, parce qu'à la prison de Rémire Montjoly, beaucoup sont originaires de Kourou. Il y a aussi une autre situation, c'est qu'on reconnaisse les habitants de la Guyane pour des êtres humains, pas pour des cobayes. Parce qu'on fait des expériences en Guyane, le jour, la nuit. Donc si vous faites bien vos calculs, continuez avec vos idées, parce que je suis d'accord avec vous pour les 90%. Mais je voudrais simplement vous faire savoir qu'il ne faut pas trop vous faire d'illusions. Vous voyez bien les impôts, on les a enlevés de Kourou jusqu'à Saint-Laurent. C'est du foutage de gueule, excusez-moi l'expression. On fait 180, 160 kilomètres pour aller régler un problème d'impôts. Mais c'est comme si on fait Paris-Orléans. Donc il faut absolument que vous mainteniez votre position à l'éducation nationale et dans le système dont vous voulez faire évoluer vos idées politiques.
Merci beaucoup, Josiane.
Parce que lutte ouvrière, ça ne veut pas dire être ouvrier ou fonctionnaire. Ça veut dire se battre.
Merci beaucoup, merci. Josiane. Alors, avant de vous permettre de répondre, on va prendre un dernier appel.
Et oui.
Et puis après, on va continuer.
On Allez. Donne la parole à Armide. Armide, bonjour. Armide.
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 Bon.
Armide, vous êtes.
Vous êtes à l'antenne.
À l'antenne, on vous écoute.
Bon, allez. Merci beaucoup. Armide est occupé. Alors, allez-y pour répondre à Josiane.
Moi, je reviens donc sur l'auditrice précédente. Moi, je partage sa colère. Je partage sa colère. Je suis pas résigné. je me fais pas d'illusion, justement. Je n'ai aucune illusion. Je me fais pas d'illusion sur, par exemple, le fait que c'est les élections qui vont changer les choses. Absolument pas. Je n'ai pas cette illusion-là. Les élections ne changeront rien. Mais par contre, le fait de proposer notre liste, le fait que cette liste, elle existe et qu'elle puisse être pour les travailleurs, un moyen d'expression pour dire voilà ce que nous voulons, on veut plus de blabla, on veut plus de fausses promesses, on veut se regrouper, s'organiser et défendre un programme de lutte. C'est très bien, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est vrai que ce qu'elle dit, la dame, est très juste. La fermeture de l'hôtel des impôts à Kourou, mais c'est un scandale. C'est un scandale de prendre la route. Cette route, je la connais bien pour aller chercher mes enfants un week-end sur deux à Saint-Laurent. C'est une tannée. Elle est dangereuse. Et là, vous avez un problème avec les impôts et il faut aller jusqu'à Saint-Laurent. Et encore une fois, ça a été fait pour faire quoi ? Des économies. Des économies sur le dos des travailleurs. Alors la liste des économies sur le dos des travailleurs, il y en a une tonne. Dans l'éducation, dans la santé, l'hôpital à Kourou, le bloc opératoire, il tombe en lambeaux. Les soignants, ils ont fait un droit de retrait il y a quelques semaines parce que les conditions d'accueil des soignants, des patients, c'est plus possible. L'hôpital de la fusée, je répète encore une fois, parce que la fusée, là, il y a les moyens. Si on envoyait avec l'électricité qu'on a, nous, la fusée, je pense qu'Ariane 6 serait encore sur le pas de tir. Donc, encore une fois, c'est quoi les priorités ? Et je n'ai rien contre la fusée. Mais justement, Kourou est un bon concentré des contradictions de ce système.
Okay,
les fusées volent au-dessus des bidonvilles.
Alors, en tout cas, vous allez à cette élection et il y a un certain nombre de dossiers à traiter. Parmi ces dossiers, emploi, chômage, développement économique. Je pense que tout ça est lié. Comment vous abordez ces aspects ?
Sur l'emploi, le chômage, c'est les travailleurs qui devront imposer de régler cette problématique. C'est les travailleurs qui doivent imposer.
Et comment ils imposent ? Parce que pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait des entreprises ou des activités administratives multipliées par X. Donc, comment les travailleurs vont pouvoir dire à quelqu'un, à l'État ou à...
Il faut s'organiser, revendiquer, se battre, faire grève et imposer ces changements. Parce que ça ne viendra pas d'une lettre ou d'un bon vouloir ou même d'un élu qui écrit en disant « Monsieur le ministre » ou « Monsieur machin, il faut créer des emplois là, il faut venir là, etc. etc. » Parce que ça, ce n'est pas vrai.
Mais en quoi l'organisation des travailleurs crée de l'emploi ?
Parce que si on impose ces changements à une direction, si on impose les changements à ces grandes entreprises, c'est nous qui pouvons l'imposer, ça. Dans une grève, quand les gens font grève pour augmenter les salaires, ils sont pas sûrs que leur grève marche pour augmenter les salaires. Mais si ça marche, tout le monde a l'augmentation de salaire, pas que les grévistes. Donc, il faut qu'on change cette société.
Comment une société fonctionne en situation de grève permanente ? Parce que si j'écoute votre discours, en fait, il faut être mobilisé le plus souvent possible pour faire avancer des idées, pour faire avancer des envies. Mais comment on fait ?
Si on veut changer la société, il faut que les travailleurs prennent le pouvoir. Il faut une révolution. Il faut pas juste des grèves, il faut une révolution. Si on veut changer les choses, si on veut imposer les emplois, si on veut imposer le partage du temps de travail, si on veut créer des emplois là où il en manque, il faut que les travailleurs prennent le pouvoir. Il n'y aura pas d'autres solutions. Toutes les autres solutions, on les a essayées. La droite, elle était au gouvernement. La gauche, pendant 15 ans, elle a été au gouvernement. Ils ont fait la même politique.
Alors, quand vous parlez de révolution, vous parlez de quoi ? Parce que là, ça peut aussi perturber les uns et les autres, puisque vous disiez il y a un instant, pas question de préparer des enfants pour servir le char à canon. Donc la révolution, vous la faites comment ? Parce que sinon, on est dans la même logique.
Non, on n'est pas du tout dans la même logique parce qu'une guerre, c'est des travailleurs qui s'entretuent. La révolution, c'est pas des travailleurs qui s'entretuent, c'est des travailleurs qui prennent le pouvoir. C'est pas du tout la même chose. Et surtout, vous savez, dans l'histoire, il y a eu des moments où, d'un seul coup, les populations, elles ont dit, il y en a ras-le-bol. La révolution française, la révolte des esclaves en Haïti. Moi, je vais prendre un exemple plus récent. Vous avez vu à Minneapolis ce qu'a fait la population ? Elle s'est organisée et elle a chassé l'ICE de sa ville. Il n'y a pas eu de violence. Les morts, ils sont pour l'ICE. C'est l'ICE qui a tué deux personnes manifestants pacifiques. Les manifestants, à l'aide de boules de neige, à l'aide d'organisations, à l'aide de manifestations, ils ont obligé Donald Trump à faire reculer, à faire reculer l'AI.
Si on veut prendre des exemples, on peut prendre 2017 en Guyane.
Je termine. Ces mobilisations-là, ces travailleurs qui se sont organisés, une révolution, c'est ça, à l'échelle de tout un pays.
Alors ça donne quoi? Parce que là, je prends l'exemple de 2017 en Guyane. Oui. Il y a une grande mobilisation. Oui. On peut parler de révolution si on veut.
Non, je ne parlerai pas de révolution. Il y a eu une forte mobilisation. Il y a eu un coup de colère de la population. Mm-hmm. Mais la population n'était pas organisée.
D'accord.
Et il n'y avait pas un parti pour leur dire « il faut... » qu'on prenne le pouvoir et qu'on s'en prenne aux vrais responsables de cette situation.
Il faut un parti pour vous.
Il faut un parti des militants et surtout, il faut que les travailleurs s'organisent. Mm-hmm. C'est aussi une question d'organisation des travailleurs. Et c'est ça qui est important.
Donc, pour le développement économique, vous proposez la révolution. Pour les impôts, pour les logements, vous proposez une autre révolution ?
pour les impôts, pour les logements, comme pour tout un tas de choses dans le programme qu'il y aura à dire, il faut que les travailleurs prennent le pouvoir pour changer la société. Dans le cadre de cette société capitaliste, tous les changements, même minimes, qu'on peut dire ou on peut proposer, n'arriveront pas. Même avec la bonne volonté du monde, même les gens les plus sincères. Regardez la taxe Zuckmann. Mmh. Moi, personnellement, je suis pas pour la taxe Zuckmann, je suis pour l'expropriation des grandes fortunes. Mais admettons, la taxe Zuckmann. Il a dit qu'il faut faire une taxe de 0,5% sur les patrimoines, et ça rapporte des milliards, etc. Ça n'écornait même pas les grandes fortunes. Bernard Arnault, il allait quand même manger du caviar à Noël, ne vous inquiétez pas pour lui, et il pouvait se payer un autre yacht. Cette taxe Zuckmann, personne n'en a voulu. Et elle n'est jamais arrivée. Moi, le constat, il est simple. Dans le cadre légal de cette société, aucun changement n'arrivera. Si on veut que ça change, il faut que nous, les travailleurs, on prenne le pouvoir. C'est nous qui faisons tourner toute la société. C'est à nous de la diriger.
Et ça commence par Kourou. Alors, soyons plus larges. Le bien-vivre, le vivre ensemble, le cadre de vie, là aussi, il faut une révolution ?
Mais oui, mais justement, cette révolution fait que tout le monde se bat ensemble. Vous parlez de vivre ensemble, mais une révolution, c'est tous ensemble. On est majoritaire dans cette société. Mm-hmm. Qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui ? C'est la misère, c'est le chômage, c'est cette société capitaliste qui nous met des idées dégueulasses dans la tête, qui nous divise, nous, entre travailleurs. C'est pas lutte ouvrière. Lutte ouvrière, au contraire, on est pour la fraternité internationale. On est internationaliste. On pense que les hommes, au-delà des frontières, on est les mêmes. Moi, j'ai plus de points communs avec les travailleurs brésiliens et surinamais qu'avec un bourgeois guyanais ou un bourgeois français. Voilà, j'ai plus de points communs avec eux parce que on est des travailleurs. Et le vivre ensemble, bah, je peux vous dire, oui, le communisme et la société communiste, c'est une vraie société du vivre ensemble.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Sébastien Coguin. Je rappelle que vous êtes candidat à Kourou. Vous avez déjà déposé votre liste.
Oui.
Elle est déjà validée, que vous représentez Lutte ouvrière. Pour demain, 26 février, nous avons rendez-vous avec le maire sortant d'Apatou, Moïse Edouine, candidat à sa propre succession. Merci de nous suivre. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain, mais pour l'instant, on vous laisse avec les programmes de Guyane, la première. Merci qu'elle.
Politique.